Stéphane Garce, une nouvelle guitare.
Oui. Son frère qui lui a donné une nouvelle guitare. Et puis je vois que vous avez changé l'emplacement. Vous avez. Et puis ça, c'est nouveau aussi. Un nouvel ampli. Et aussi, il coûte cher. Plein d'effets. Il fait wap du wap. Et tu joues et il rejoue derrière encore en plus. Non, mais c'est formidable. Écoute, merci beaucoup, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, nos musiciens, ils s'investissent et ils investissent dans ce qu'ils aiment. Amen. C'est bien, on peut les applaudir. Je me suis couché très tard grâce à un frère qui m'a envoyé un SMS à minuit. Après, je ne pouvais plus me rendormir. Donc ce matin, si je dors un peu, c'est sa faute. Non, il n'a pas réalisé que moi je suis obligé de laisser mon téléphone en alarme, c'est-à-dire que s'il y a une urgence, eh ben voilà quoi, je suis là, je dois être là. Mais bon, c'était pas urgence qu'il m'envoyait là, et c'était un petit peu embêtant. Après, j'ai eu de la peine à me rendormir. Bon, de grâce, ne me téléphonez pas à minuit, ça serait gentil, merci. Non, ça va très bien ce matin, j'ai quand même eu à peu près 6 heures de sommeil. Hébreux chapitre 9, verset 27. Je dis ça parce que ça arrive quand même assez souvent que des gens me téléphonent comme ça, n'importe quelle heure, juste pour me dire « Coucou, ça va? T'es où ?» Hein, je suis dans mon lit, je dormais, merci. Aïe, 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 aïe. Hébreux 9, 27. Voilà. Ben, j'espère que c'est ça, oui. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et à partir du moment où vous décédez, vous êtes jugé, est placé du bon ou du mauvais côté du séjour des morts. Puis là, il y a encore des tas de choses qui se passent, mais ça, c'est une autre prédication que vous avez déjà pu entendre, des enseignements à ce sujet. Mais ce matin, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez une vie là, et en fait, on n'en a qu'une, vous n'avez qu'une vie ici-bas, et je voudrais vous poser la question, est-ce que vous vivez cette vie dans le respect de vous-même, avec un but ? Avec une stratégie de croissance continue. On n'en a qu'une. Ou est-ce que vous êtes à peine un espèce de pantin qui est manipulé par les autres, c'est-à-dire par le diable, par les gens, par les circonstances, par les modes. Le Seigneur Jésus, c'est vrai, il nous appelle ses brebis. Et nous qui vivons dans la vie de l'Église rétablie, comme Jésus l'a voulu au début, c'est-à-dire dans une communauté, il y a un danger. Mais enfin, de toute façon, que vous viviez en communauté ou pas, vous êtes une brebis du Seigneur. J'espère que vous n'êtes pas un mouton, c'est ça que je veux dire. Parce que vous, si vous vivez en communauté, vous pouvez devenir un mouton. Même si vous ne vivez pas en communauté, vous pouvez être un mouton. Un mouton, vous savez, les moutons, c'est pour se protéger qu'ils restent toujours dans le troupeau. C'est pour se protéger qu'ils restent toujours dans le troupeau. Le troupeau bouge, il ne sait même pas pourquoi, il bouge parce que le troupeau bouge, parce qu'il estime que c'est comme ça, que c'est bien, que c'est. Réfléchis pas trop. Et si vous êtes un mouton, ce qui vous motive pour suivre, eh ben, c'est la peur. Or, la Bible nous dit que la peur, c'est exactement à l'inverse de l'amour. L'amour bannit la crainte. Vous voyez, ça se ressemble, une brebis, un mouton. Pour un mouton, même accéder à la nourriture, il y a un danger, il a peur. Pour aller à l'eau, il a peur. C'est dangereux pour lui. Et le danger est atténué par le fait qu'il est présent dans un troupeau. Alors je me pose souvent la question, parce que je voyage quand même pas mal, je visite pas mal d'églises, pas seulement des églises d'une seule dénomination, mais de plein de dénominations différentes, et je pose la question, pourquoi parmi les brebis du Seigneur, on trouve tant de personnes qui agissent comme des moutons? Pourquoi? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont abandonné la gestion de leur vie aux autres, à un gourou, à un dogme? Pourquoi tant de chrétiens traversent leur vie avec une démarche mal assurée? On dirait qu'ils attendent qu'on leur ordonne de sauter pour sauter. On dirait qu'ils attendent qu'on leur ordonne de plier les chines, qu'on leur ordonne de travailler, même pour Dieu. Ils ne vont pas travailler pour Dieu. Ils attendent que Dieu leur dise. Et même, pourquoi? On dirait qu'ils attendent d'être poussés ou d'être tirés pour avoir la vie abondante. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous laissez les autres diriger votre vie, je vais vous dire une vérité à la palisse, eh bien vous remettez votre destin entre leurs mains. Pas bon ça. Pas bon. Alors souvent, ces derniers temps, j'ai abordé le sujet du libre arbitre. Et je vais aller petit à petit, on va aller de plus en plus profond pour comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire du libre arbitre. Ce matin, ma prédication aura pour titre « Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ?» En fait, c'est la suite de la prédication de vendredi passé. Qui c'est qui l'a écouté? Bon, tous ceux qui étaient là ont écouté. Les autres, il faut aller sur le net pour l'écouter. Révélation Bible. Et puis, il faut avoir un code parce que maintenant, on trie un petit peu. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très bien intentionnés. Donc, le libre arbitre, un enfant de Dieu, c'est ce que vous êtes, n'a plus le libre arbitre ici-bas. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que dans votre passé éternel, vous l'avez exercé une fois pour toutes. Dans le passé éternel, vous avez librement choisi de venir sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Comme Jésus, avant de venir sur terre, il a dit « Je viens au Père pour faire ta volonté ». Et nous avons dit la même chose. Nous sommes venus ici-bas pour faire la volonté de Dieu. Vous êtes venus ici-bas pour faire la volonté de Dieu et non votre propre volonté. Vous avez votre propre volonté, mais vous avez décidé là-haut de faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit que tel Jésus est, tel nous sommes ici dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Ça veut dire que tel il est venu, tel nous sommes venus. Pour d'autres raisons, nous ne sommes pas venus pour mourir sur la croix pour le péché de l'humanité, pas du tout. Mais nous sommes venus pour faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions, nous. Alors, qu'en est-il du libre arbitre? On a des lois. Nous avons des lois de Dieu qui nous disent ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Il nous dit, si vous faites ça, ben, vous allez avoir des problèmes. Ce n'est pas forcément moi qui vais vous punir, mais brisant les lois de la nature, vous allez récolter ce que vous avez semé, donc il ne faut pas faire. On pourrait dire, en voyant cela, que nous avons donc le libre arbitre, puisque Dieu dit « Choisis entre le bien et le mal, choisis la vie afin de vivre et non la mort ». Quand on fait des réunions d'évangélisation, je suis le premier à m'adresser à la foule en disant « Choisissez le Seigneur, renoncez à votre vie ». Venez à Jésus, arrêtez avec le péché. Qui veut accepter le Seigneur Jésus dans sa vie ce soir? Et puis, levez la main. Alors, des gens lèvent la main. Vous avez tous vu ça. Je m'adresse à un certain public. Parce que le libre arbitre est valable pour une certaine catégorie de personnes. Là, ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas une prédication, un enseignement pour des bébés spirituels. C'est pour des gens qui ont une certaine profondeur, une vie de l'esprit. Est-ce que vous voulez savoir quelle catégorie de personnes a le libre arbitre? Je pense que oui. On va lire 1 Timothée 1:9. 1 Timothée 1:9. Nous, on le sait bien. C'est Paul qui parle à Timothée. Nous, on le sait bien. Une loi ne vise pas l'homme juste, mais les sans-loi, les insoumis, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, les parricides et les matricides et les autres meurtriers, les débauchés, les sodomites, les trafiquants d'êtres humains, les menteurs, les parjures, et tout ce qui s'oppose à l'enseignement de la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme à l'évangile qui m'a été confié, celui de la gloire du Dieu bienheureux. On passe là-dessus avec légèreté. Il ne faut pas passer là-dessus avec légèreté. La loi est faite, a été donnée pour une catégorie de personnes. Quelle catégorie? Ben, ceux dont on a la liste là. Et il dit, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous qui êtes des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour vous. On va lire Romains 2, 11. Ça fait un peu réfléchir tout ça. Hein? Romains 2, 11. J'espère que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. C'est 1, excusez-moi, c'est 1, 28. C'est 1, 20. Romains 2, 28. Voilà. Voilà. Romains 2, 28. Je reviens. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, vous vous rappelez que Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, hein, et son fils Jésus-Christ. Eux ne veulent pas, jugent pas bon de connaître Dieu, ça n'intéresse pas. Alors ils sont guidés par une autre connaissance, la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est ce dont je parle vendredi. Alors, comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés, dans d'autres versions, vous avez peut-être ça, Dieu les a abandonnés à une façon de penser dépourvue de jugement, et ils font ce qui est inconvenant. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de soif de posséder, de méchanceté, ne respirant que jalousie, meurtre, rivalité, ruse, dépravation. Ils sont détracteurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal, révoltés contre leurs parents. Ils sont sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié, ils savent bien, etc. Parce qu'ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une façon de penser qui est dépourvue de jugement. Dieu les a abandonnés, Dieu les a laissés tomber, voilà. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que ce n'est pas Dieu qui est le prince de ce monde, ni même le roi, c'est Satan qui est le prince de ce monde. Donc, ils sont livrés au diable, ils font comme ils veulent, hein. Mais afin qu'il y ait un certain ordre qui soit maintenu, Dieu permet qu'il y ait ce qu'on appelle une culture. C'est-à-dire que nous avons une culture judéo-chrétienne, une culture américano-machin, une culture hindou-machin, tout ça. Et dans toutes ces cultures, il y a ces lois de base. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère. Donc il leur a donné une loi afin qu'ils puissent choisir avec leur libre arbitre. Et cette loi, si elle n'est pas écrite dans un livre, de toute façon, elle est écrite dans leur cœur. Dans le cœur de tout homme, de toute femme, il y a cette loi. Moi, je me rappelle de Raphaël, il disait la loi, Raphaël le Gitan. Il disait la loi dans le cœur, c'est un peu comme une espèce d'instrument en métal, comme ça, avec trois griffes. Et puis ça tourne. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, ça tourne et ça blesse. On dit, oh, alors notre conscience nous parle en disant, oh, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais à force de tourner, finalement, les griffes, elles s'usent et ça tourne dans le vide, on ne sent plus rien. Voilà ce que disait Raphaël. Il n'avait pas tort. Bon, ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu. Ils ont donc une autre connaissance, la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je vous rappelle que ça, cette connaissance, on l'a eue, c'est une malédiction. Regardez Genèse. Ah, c'est une malédiction d'avoir cette connaissance du bien et du mal. Et ils sont dirigés par elle. Dieu voulait donner la connaissance du bien et du mal. Dieu avait cette connaissance du bien et du mal et il voulait nous la donner. Mais il voulait que l'être humain, Adam, Ève et quelques autres qui allaient venir après, puissent mûrir avant d'avoir cette connaissance. Il voulait leur la donner, mais eux, ils l'ont volée. Et c'est pourquoi c'est devenu une malédiction. Dieu a dit, bon, vous la voulez, ben gardez-la, mais maintenant, vous vous débrouillez avec. Paul le dit, ils ont une façon de penser qui est dépourvue de jugement. Vous allez me dire, mais pourtant, quand on choisit entre le bien et le mal, on juge, oui, on juge humainement. Et la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Maurice Ray, un pasteur suisse, était un jour en train d'interroger des enfants à l'école du dimanche. Et puis, il leur a dit, écoutez, pour dimanche prochain, apprenez-moi le verset dans Ésaïe 55, « Mes voix ne sont pas vos voix ». Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors les gamins ont appris, et le dimanche, il dit, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Il y en a un qui lève la main. Ah, vas-y, raconte-moi, dis-moi le verset. Alors il dit, le gamin, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes capucines ne sont pas vos capucines. Alors éclat de rire, n'est-ce pas, à la porte du pasteur et de tout le monde. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les capucines, c'est une très jolie fleur, mais ça attire toutes les vermines. Et le gamin, il a pensé, mes pensées, les fleurs, ne sont pas les vôtres. Mes capucines ne sont pas. Et il a. Mais en fait, ce n'était pas complètement faux, parce que si on n'a pas les pensées de Dieu, on a quoi? On a les capucines qui attirent toute la vermine. Voilà, c'était une petite histoire rigolote, mais c'est authentique, c'est vrai, ça s'est passé vraiment. Et comme ils ont rejeté Dieu, ses pensées, sa façon de penser, ben Dieu les a abandonnés à leur façon de penser qui est dépourvue du jugement juste. C'est des jugements remplis de vermine, c'est-à-dire ce n'est pas des jugements sains. Alors, qui a le libre arbitre? Eux. Qui eux? Ceux que la Bible appelle des méchants. La Bible dit que c'est des méchants. Alors, et nous? Alors, on vient de lire dans 1 Timothée 1,9, la loi ne vise pas l'homme juste. Alors, comment est-ce que je peux dire que c'est nous les hommes justes, les femmes justes? Qui est l'homme juste? Personne n'est juste en acte ni en pensée. Si on juge humainement, qui peut dire, moi je suis juste? Au secours. Chez nous, on dirait, pimpon, vite, la voiture de cerise, ça veut dire les fous. Hein? Personne n'est juste. Humainement, leur jugement est juste, ils ont raison, mais le sens de la justice de Dieu n'est pas le sens de la justice qui procède de la tête, des raisonnements de l'homme. Qui est juste? La Bible dit que ceux qui sont justes, c'est ceux que Dieu a déclarés justes. Qui sont ceux que Dieu a déclarés justes? Les siens. Il les a perdus ici-bas. Il est venu les chercher ici-bas, il les a appelés, ils ont reconnu sa voix, ils l'ont suivi, ils ont été purifiés de tous leurs péchés et ils ont été rendus justes de par la volonté de Dieu, c'est-à-dire que la culpabilité qui était la leur est tombée sur Jésus, il était puni, lui, à cause de mes péchés, et la justice qui était sur Jésus, sa perfection a été mise sur mon compte. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tout lecteur de la Bible sait cela. Connaissent cela. Et tout ça simplement parce que nous avons fait confiance à ce que Dieu dit par ses serviteurs, les prophètes, dans les Écritures et des prédicateurs. Parce que nous avons cru, nous avons fait confiance, nous avons cru que quand il s'est sacrifié, quand il est mort sur la croix, c'était à notre place, c'est nous qui méritions d'être tués à cause de nos péchés. Et il est mort à notre place afin que nous puissions vivre éternellement. Ça, c'est la justice de Dieu. Il y a sa part, il dit, voilà, je donne ma vie pour vous, maintenant celui qui croit sera sauvé, aura la vie éternelle. Donc il y a notre part, c'est de croire. Mais est-ce que vous pouvez croire si vous voulez? Non, la Bible dit, j'attire à moi seulement les miens. Alors qui sont les justes? Ben, ceux que Dieu a déclarés justes, point. Si on veut résumer la doctrine, c'est ça. Qui est juste? Ceux que Dieu a déclarés justes. Alors Jésus dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu, dans le royaume éternel de Dieu. Qui donc pourra entrer dans le royaume éternel de Dieu? Parce qu'on est tous des pécheurs et on est tous souillés. Humainement parlant, si on se regarde soi-même, on est tous des pécheurs. Ceux qui vous font croire qu'ils ne le sont pas et qu'ils sont meilleurs que vous, ils vous trompent. Je disais vendredi, ne vous faites pas appeler père. Il y en a même qui se font appeler Saint-Père, encore mieux, c'est fort, hein, c'est fort. Ceux qui pourront y entrer sont ceux que Dieu a justifiés. Ceux qui pourront y rentrer, c'est ceux que Dieu a rendus justes selon sa justice à lui. Est-ce que vous voyez? Vous me suivez? Parce que c'est un raisonnement pour arriver, un raisonnement selon les Écritures, pour arriver à cette vérité que Jésus enseigne. Alors, ayant été délivrés de l'acte légal qui nous condamnait, c'est-à-dire de cette loi, de la connaissance du bien et du mal. Nous vivons connaissant la personne de Dieu, et non seulement la lettre qui tue, mais nous connaissons l'esprit, la vie, l'énergie. Et si nous faisons le bien, c'est par sa force qui est en nous maintenant, parce qu'il vit en nous maintenant, par son esprit, et non pas guidé par nos choix. Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Paul choisissait? Non, c'est Christ qui vivait en lui. Notre choix, il a été fait une fois pour toutes dans notre passé éternel. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tel il a été envoyé, tel nous sommes envoyés. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Mais on ne vous dira pas ça dans les églises, parce que c'est tellement plus intéressant de tenir le peuple avec son péché en disant, vous avez péché. Mais attention, si vous ne venez pas vous repentir, vous allez être perdus. Toi, on fait peur aux gens avec ça, alors on les tient avec ça. Non. Dieu ne voit personne, même pas les païens, Dieu ne voit personne pécheur. Il voit tout le monde recouvert par le sang purificateur de Jésus. Puis il y aura un jugement à la fin, mais pour le moment, il n'y a pas... Donc ceux qui tiennent les gens en leur faisant peur au sujet de l'enfer et tout ça sont des faux prophètes. Désolé, mais c'est comme ça. Notre choix, il était fait une fois pour toutes. Nous l'avons invité à venir en nous. Il tabernacle en nous. Il n'habite pas des temples faits de main d'homme. Il n'habite pas ce local. Il habite en nous. Il s'exprime par nous. Nous marchons, quand je dis en nous qui marchons selon l'esprit. Et non pas selon la chair. Qu'est-ce que c'est marcher selon la chair? C'est marcher selon sa propre volonté. Et la chair, c'est une folle. Alors, la chair conduit à la mort, alors que l'esprit, nous dit la Bible, vivifie, nous rend vivants de mort que nous étions à cause de nos offenses. Nous avons été rendus vivants pour vivre la vie de l'esprit, pour vivre la vie de Dieu. L'esprit, c'est Dieu. Jésus, quand il était sur la terre, il disait, moi et mon Père, il disait même pas mon Père et moi, il disait, moi et mon Père, nous sommes un. Et l'épouse de Christ, la Bible nous dit que c'est l'Église, c'est son corps, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ doit pouvoir aujourd'hui dire, moi et mon Père, nous sommes un. Alors, est-ce que vous vivez comme un mouton ou est-ce que vous vivez comme une brebis ? Les brebis du Seigneur, elles marchent, elles avancent, elles progressent par amour. Alors que le mouton, il stagne, il avance plus ou moins, il recule, etc. Mais parce qu'il a peur. Il a peur, tout fait peur. Mais c'est vrai que tout fait peur. Un mouton, il suit le troupeau. Quel troupeau ? Le troupeau des méchants, des sans-dieux. Le troupeau, là qu'on a vu, vous avez vu la description, le troupeau il est long, il est grand troupeau. Et il marche. Il marche où ? Il marche à travers un interminable pâturage de médiocrité, incapable, n'est-ce pas, de se libérer, de réaliser le moindre de ses rêves, son rêve de justice, son rêve de... On l'a tous, quand on était gamin, on avait tous des rêves de justice, de pureté, de beauté. Et puis tous ces rêves, c'est piétiné par tout ce troupeau-là. Même les riches, vous croyez que les riches sont heureux ? Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les riches sont heureux. Ne croyez pas que les riches qui sont conduits par leur libre arbitre sont heureux. Les riches qui font ce qu'ils veulent, qui marchent selon la chair, ne sont pas heureux, sont malheureux, j'en connais, je sais, c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous avez du pognon qui vous permet de tout vous acheter que vous êtes heureux, ce n'est pas vrai. Parce que le rêve le plus profond de l'homme, c'est la paix de l'âme. C'est la paix de l'âme. Et cette paix, on ne l'a qu'en marchant avec Jésus. On se sait aimé, on se sait protégé, on se sait conduit, on ne craint rien, on ne développe pas des maladies psychosomatiques. On marche aussi avec un troupeau, mais c'est un troupeau de gens qu'on peut regarder dans les yeux. On sait qu'ils vont nous dire la vérité, qu'il n'y en a aucun qui est animé par un mauvais esprit pour essayer de nous tromper. Et plus on vit ensemble, plus on est certain de ça, parce qu'on voit les fruits que portent les gens qui sont conduits par l'Esprit. Alors on peut leur faire confiance, on peut avoir une bonne communion avec eux, et c'est joyeusement qu'on marche, non pas en suivant le troupeau, mais en suivant le berger qui marche devant, Jésus. Alors, combien de chrétiens marchent encore à la façon des moutons ? Plein, beaucoup ! Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en présence de Dieu, on est dans le Shabbat, c'est-à-dire on est dans le repos. Jésus a dit « Entrez dans mon repos ». Ils n'ont pas compris ça. Ils sont sans arrêt en train de se torturer les méninges pour... c'est une vie terrible. Même, la Bible nous dit, si on passe par l'ombre, par la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent, etc., etc. Nous suivons le mauvais. Même quand c'est difficile, on ne craint rien. Alors, prenez votre position en Jésus-Christ si vous vous comportez comme un mouton là en ce moment. Reprenez votre position en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas perdu, vous avez été retrouvé. Le troupeau. Si vous vous conduisez comme un mouton. par l'Esprit qui est en vous, vous êtes maître de vous-même. Vous êtes aux commandes de votre destin. Ah Michel, alors tu vois, c'est toi qui es aux commandes, donc, hein, ah, qu'est-ce que tu dis là? Mais parce que c'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. C'est ça, marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est pas arrêter son travail pour pouvoir vivre comme ça de mendicité. Parce que la plupart, vous savez, en Afrique, c'est extraordinaire. Vous avez plein de gens, comme ils ont raté leurs études, comme ils ne savent rien faire, ben ils se bombardent pasteurs parce qu'ils vivent comme ça par la foi, c'est-à-dire en réalité, c'est par la mendicité. Et puis alors, s'ils voient un pasteur qui a plein de brebis, ils vont lui voler des brebis pour avoir plus de dîmes. C'est des vrais cow-boys. Marcher par la foi, c'est pas ça. Marcher par la foi, c'est croire que celui qui est en vous, c'est celui qui vous conduit, c'est celui qui inspire vos pensées. Voilà, c'est ça, avoir la foi. Marcher par la foi, marcher par l'esprit. Mes frères et sœurs, croyez Dieu. C'est bien de croire en Dieu, mais croyez Dieu. Il ne vous abandonnera pas à vous-même. C'est-à-dire, il ne vous abandonnera pas à ce fameux libre arbitre maudit. Il organisera tout l'univers en votre faveur pour que toutes choses concourent ensemble à votre bien et à sa gloire. Et si vous ne voulez pas croire en Dieu, ben tous vos efforts pour vous modeler, pour modeler votre vie, ça ne vous donnera aucun sentiment de sécurité. Parce que vous vous sentirez seul au milieu d'un troupeau de médiocres, de ratés qui ont... tout peut arriver dans ce troupeau. C'est terrible. Vous connaissez l'histoire des moutons de Panurge ? Tout peut arriver. En jugeant que vous n'avez pas besoin de votre créateur, vous poussez votre créateur à vous livrer à vous-même. Il ne va pas vous livrer à vous-même tout de suite. D'abord, il va vous taper avec son bâton. Ensuite, il va vous accrocher la patte avec sa roulette, comme disent les gitans, avec sa houlette. Hein? Et puis, il va vous livrer finalement à vous-même, à votre propre arbitre. Vous allez devenir votre propre arbitre. Vous allez être le joueur et l'arbitre en même temps. Et tous ceux qui jouent à côté de vous dans le troupeau, ils sont joueurs et arbitres. Vous voyez un petit peu, il y a un gros mot pour dire ce que ça peut donner. Vous êtes votre propre arbitre, hein? Libre. Ça veut dire quoi, libre? Je suis libre, je fais ce que je veux. Ouais, le mot réel, c'est pas libre, c'est abandonné. T'es pas libre, t'es abandonné. C'est différent. Dans un monde de tromperie, dans un monde cruel. Ah, le monde n'est pas cruel. Ah. Vous êtes abandonné dans un monde de tromperie dans lequel votre vie dépendra de la volonté des autres. Du troupeau de mécréants. J'ai regardé dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire mécréant, hein? Qu'est-ce que ça veut dire mécréant? Ça vient d'un vieux mot qui veut dire mécroire. C'est-à-dire mécroire, c'est ne pas croire. Ben, vous allez être dans le troupeau de ceux qui ne croient pas, ne croient pas en Dieu, ne croient pas en eux-mêmes, ou alors ils ont un orgueil démesuré, enfin tout est déséquilibré, tout, n'importe quoi peut arriver, il n'y a aucune sécurité là-dedans. Vous allez être bousculé, et puis vous allez vous sentir de plus en plus isolé. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements, tout ça, ça change, ça bouge tout le temps. Et alors vous allez vous sentir isolé, ça va augmenter votre crainte, et c'est la vie de ce monde, pas rigolo. Alors écoutez bien ça, le monde est rempli de gens qui ne sont que des éléments de crainte, qui sont ballottés par le vent des circonstances, car tout fonctionne comme ça, au niveau des pensées humaines qui sont limitées, et c'est un flux, c'est un va-et-vient, c'est un flux et reflux de pensées entre le bien et le mal. Moi je fais ça parce que c'est bien, puis après on s'aperçoit que c'était pas bien, que c'était mal. Il y en a qui pensent tellement que c'est bien, qu'ils vont même tuer les mécréants, pensant rendre gloire à Dieu en tuant les mécréants. C'est infernal! Ils pensent faire bien, hein. Voyez, la connaissance du bien et du mal, jusqu'où ça peut aller. Une folie, c'est une malédiction cette histoire de connaissance du bien et du mal. Et l'humanité, elle est prise dans un cyclone de peur dans lequel les impulsions s'entrechoquent. Et me dire qu'ils n'ont pas peur, pourquoi ils se distraisent tant? Pourquoi ils ont tellement besoin de se distraire? Pourquoi pensez-vous qu'à la fin, ils se raconteront des fables? La Bible dit. Ils donneront une foule de docteurs qui leur raconteront des fables. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont morts de trouille, alors ils ont envie qu'on leur raconte des fables. Ah bon? Ben oui, chaque fois que vous allumez la télé pour regarder un film, vous regardez une fable. Il y a 350 chaînes de fables en ce moment. On a limité maintenant, hein, parce que c'est trop quand même. C'est bien de se distraire un peu, mais le monde, c'est ça, faut oublier que c'est terrible, faut oublier que c'est un cyclone de peur dans lequel les impulsions s'entrechoquent au hasard, parce que ça s'entrechoque au hasard, ça a l'air d'être le hasard, c'est pas le hasard. Tout ça, c'est une manipulation diabolique, une réelle manipulation du prince de ce monde qui n'est pas Dieu, mais qui est Satan, dont la plus grande ruse est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable, vous dit-il, mais j'existe pas, voyons. C'est pas Dieu le prince de ce monde, c'est le diable qui est le prince de ce chaos, de ce cyclone. Et Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est juste avec son petit troupeau. Et il dit, ne regarde ni à gauche ni à droite, ne regarde ni au bien ni au mal, suis-moi, viens et suis-moi, renonce à tout, suis-moi. Que signifie renoncer à toi, soi, renoncer à soi? C'est renoncer à notre libre arbitre, dont on est tellement fiers. Dans toutes les religions, s'il y a deux choses, vous n'arriverez jamais à les décroter, c'est ça. La Trinité et le libre arbitre, c'est impossible, ils ne veulent pas lâcher ça, pas qu'ils gardent. Renoncer à soi, c'est renoncer à son libre arbitre pour faire la volonté de Dieu. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, elle est écrite. Si déjà vous faites ce qui est écrit là, il va vous inspirer les détails. Oui ou non? Bien sûr. Mais si vous ne commencez pas déjà à faire ce qui est là, ce qui est écrit là dans le livre, il ne va jamais vous inspirer les détails. Et vous allez passer votre temps dans la prière à chercher quelle est la volonté de Dieu. Et vous allez prendre vos pensées pour les pensées de Dieu. C'est tout le drame de la chrétienté. La volonté de Dieu, elle est écrite, et si vous la faites, si vous faites ce qui est écrit au du mieux que vous comprenez, parce que Dieu va ouvrir votre intelligence petit à petit, il ne vous demande pas de faire tout de suite, il sait très bien qu'il faut que votre intelligence soit ouverte, et votre intelligence elle s'ouvre de par l'expérience que vous vivez, vous vous rendez compte des choses et vous voyez que les bonnes paroles de Dieu sont vraiment des lumières et qu'elles sont bonnes. Alors à partir du moment où vous entrez là-dedans, alors sa volonté s'inscrit de jour en jour dans votre conscience, dans le cœur de celui en qui vit l'esprit, la vie. Ce n'est pas de la poésie que je vous fais ce matin. C'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Alors dans la communauté, je suis le berger qui montre la direction que Jésus indique à mon esprit. C'est pas moi, c'est le ministère. Et à un moment, c'est lourd pour moi de montrer toujours la direction. Parce que j'ai le droit de montrer la direction, mais je n'ai pas le droit de diriger. Est-ce que je suis un manipulateur de conscience? Non, parce que je connais les Écritures qui interdisent formellement d'être directeur de conscience. Vous trouvez ça dans Matthieu 23, 9 à 10. Interdiction formelle d'être directeur de conscience. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je n'ai pas le droit de vous diriger. C'est interdit. Je peux juste vous montrer la direction. C'est ce que je fais ce matin. C'est le ministère. Que se passe-t-il dans la communauté, dans le troupeau du Seigneur? Si une personne se met à marcher selon la chair, hein, je vous ai déjà parlé du bâton, je vous ai parlé de la houlette, et s'il s'obstine dans ses pensées, là, il lui faut une loi. C'est-à-dire qu'il faut des sanctions. Quand il y a loi, il y a sanction. Et c'est très pénible de conduire les brebis du Seigneur avec des lois. Il y en a qui adorent ça, hein. Moi, je déteste. S'il y a une majorité de brebis qui se comportent comme des moutons dans la communauté, ben c'est bien simple. Je m'enfermerai toute la journée dans mon bureau, je ne m'occuperai plus que de prêcher. Et je ne m'occuperai plus de rien. Parce que c'est ingérable, c'est désagréable, ça n'est pas du tout la vie de l'esprit. Il y en a qui adorent se mêler de la vie des gens, puis leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça, puis si tu fais pas, ben je te tape ou je te punis. Moi j'ai horreur de ça, c'est contre la nature de l'esprit qui est en moi. C'est mieux de conduire une communauté où les brebis se sentent responsables du bien-être des autres. Tout à l'heure, notre frère Alain faisait l'éloge de notre frère Franck en disant, bon c'est vrai qu'on a un programme, dans la communauté qui dit qui c'est qui fait la vaisselle, qui c'est qui fait le café, qui c'est qui nettoie les escaliers, qui c'est qui fait les vitres, qui c'est qui fait ci, qui c'est qui fait ça. Puis voilà, puis si on ne peut pas parce qu'on a quelque chose, on dit ah, excuse-moi, je ne peux pas. Alors mais quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de punition, on ne fait pas. Mais enfin bon, c'est quand même bien que les gens se. Franck, il devance, il est hors programme, comme il dit Alain. Il devance, et puis bon, des fois il fait un peu vite, mais bon. Alors, c'est ça, voir le besoin, ressentir, être responsable au point de voir le besoin des autres, pas seulement son propre besoin. On va lire Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. C'est écrit, faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui vous serait d'aucun profit. Ah, soumis, voilà, ça c'est embêtant. Être soumis, voilà, oh là, 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 être soumis. Celui qui montre la direction dans la communauté, il dit ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Si vraiment il y a besoin, parce que normalement on le sait. Et si vous ne faites pas ce qui est à faire, c'est parce que vous ne marchez pas selon l'esprit, mais selon la chair, c'est-à-dire, voilà, vous êtes paresseux, alors bon, vous laissez faire les autres. Ne pas faire ce qui est à faire, c'est marcher exactement comme les méchants dont parle Paul dans Romains 1, 8, 29, qu'on a lu tout à l'heure. Relisez la liste. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Une brebis folle? Une vierge folle, un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi, un porc propre qui était purifié et qui retourne se rouler dans sa saleté. Quelle ménagerie! C'est plus le troupeau du Seigneur, c'est une ménagerie. Eh bien, il y en a plein les églises de ces sortes de là. Il y en a plein les églises et les pasteurs souffrent. Mais des fois, c'est leur faute, hein, parce qu'ils sont un petit peu trop autoritaires, directeurs et... Donc les brebis disent, bon, ben, tant qu'il ne me dit pas, je ne fais pas. Les gens, c'est des gens qui ont besoin d'une loi, d'un pasteur autoritaire. Mais en réalité, vous interviewez les gens, vous leur parlez, personne ne veut d'un pasteur autoritaire. Personne. Et pourtant, c'est ce qu'ils veulent. Ils démontrent qu'ils le veulent. Et ces églises, avec des pasteurs gourous qui dirigent tout, eh ben, elles sont pleines. Il y a plein de monde. Ils adorent ça, les gens. Et Paul dit... Mais ce n'est pas avantageux pour vous. Ce n'est pas avantageux, on vient de le lire. Ça ne vous aide aucun avantage, parce qu'en fait, le pasteur, il va craquer, il va commencer à se plaindre, ça va être dur, c'est dur. Alors, brebis ou mouton, libre arbitre ou liberté glorieuse des enfants de Dieu conduits par l'esprit d'amour? Alors, déjà rien que le fait de mettre la brebis et le mouton devant eux, ça prouve que Dieu, dans son amour, donne au mouton le pouvoir de choisir. C'est au mouton qui donne le pouvoir de choisir. Ou de re-choisir, de revenir. Mais maintenant, si vous êtes une brebis qui se comporte comme un mouton, bon, il met devant vous tout cela afin que vous choisissiez, parce que vous êtes de nouveau sous le système du libre-arbitre. Mais n'abusez pas de sa patience, parce qu'un jour, il va en avoir marre. Parce que si ses serviteurs en ont marre... Mais Dieu, il en a plus vite marre encore que ses serviteurs. Rappelez-vous, un arbre était là, il ne portait pas de fruits. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son serviteur, coupe-le, il prend la place inutilement. Il prend la place inutilement. Puis le serviteur, il est plus gentil, hein? Plus gentil que le maître. Plus gentil que Dieu. Ah, c'est terrible de dire ça, hein? Mais c'est comme ça que Jésus raconte l'histoire. Il dit, écoute, laisse-moi un peu de temps, je vais d'abord faire un trou autour. Et puis je mettrai du fumier, et puis dans un an, s'il ne porte vraiment pas de fruits, bon, on l'enlèvera, on va lui donner encore une chance. Alors le serviteur, il prend sa pelle, il commence à creuser. Ça, c'est le serviteur de Dieu qui commence à dire, écoute, tu devrais faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas... Et l'arbre, il se sent déséquilibré, il ne se sent pas bien, parce que oh là là, oh là, on me dit qu'il faut, on me dit ci, on me dit ça, bon, là. Et après, pire, on met du fumier. Quelle horreur, ça pue le fumier. Pasteur, toutes ces prédications, c'est du fumier. Oh, cette prédication, c'était de la merde. C'est ce que Jésus dit, il mettra du fumier. Pourquoi? Parce que tout ce qui pousse bien, ça pousse sur ce qui est désagréable. Alors, si vous trouvez que je suis désagréable, c'est très bien ce matin. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Et puis, le temps passe, et puis s'il n'y a toujours pas de fruits, quick. Pas le dessin, vous avez compris. Quick. Laisse la place à quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, je ne veux pas diriger votre conscience moi-même. Je vous transmets simplement ce que le Seigneur me dit dans les moments de prière et de méditation. Si vous êtes un mouton, choisissez la vie et non la mort. Et si vous êtes une brebis qui a un petit peu flanché ces derniers temps, humiliez-vous sous la main de Dieu, parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il vous fera grâce. Demandez-lui la sagesse si vous manquez de sagesse. Il vous la donnera. Il y avait un gamin en 1820 aux États-Unis. Alors dans sa ville, il y avait plein de pasteurs qui venaient. Il y avait des baptistes. Tout cela, les autres les gars, oui, Dieu de diable, enfer. Bon, écoutez, t'es très impressionné. Quelques temps après, il venait un méthodiste. C'est nous qui avons raison, les autres. Un petit jeune était très troublé. Et puis encore un autre qui arrive. Vous savez, toutes ces églises qui existent, ils envoient des évangélistes, des missionnaires, tout ça. Alors le petit jeune, il ne savait pas. Il disait, mais dans quelle église il faut que j'aille? Ils sont tous en train de dire qu'ils ont la vérité. Mais c'est laquelle qui a la vérité? C'est où qu'elle est la vérité? Il était très embêté. Et puis un soir, il lisait sa Bible. Et puis il a lu le verset, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu, qui est fidèle et juste, lui donnera sans lui faire de reproche. » Ah, il a dit, ben voilà, s'il y a quelqu'un qui manque de sagesse, c'est bien moi. Alors il a décidé, demain matin, je vais aller derrière la ferme, dans le petit bois, et je vais prier. Alors il est allé le matin, il est arrivé dans la... C'est très beau, il y avait les rayons de soleil, c'était magnifique, il a regardé, il n'y avait personne. Il avait 14 ans, le gamin, 13-14 ans. Il s'est mis à genoux, dit « Seigneur, tous ces gens qui viennent et qui disent « C'est bien, mais où est la vérité? Dans quelle église je dois aller? Je manque de sagesse, je ne sais pas. Éclaire-moi, montre-moi. » Le ciel s'est ouvert, mes frères et sœurs. Le Seigneur lui est apparu et lui a dit « Ne te joins à aucune d'elles. » Cet homme, vous savez qui c'est? Joseph Smith. Il lui a dit maintenant, va et je te donnerai la direction. Il a suivi. Ils sont maintenant 14 millions dans le monde. Moi je dis, on reconnaît l'arbre à son fruit. Ce sont des gens droits, ils sont connus pour être les gens les plus corrects dans leur façon de gérer toute chose. Ils ont une certaine hygiène de vie alimentaire et tout ça, qui font qu'ils vivent plus longtemps. C'est pas eux qui le disent, c'est des statistiques qui disent qu'ils vivent plus longtemps que les autres, parce qu'ils ont une meilleure santé que les autres, parce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, ils ne vivent pas n'importe comment, ils ne fument pas, ils ne boivent pas des alcools forts. Mais vous fréquentez ces gens, c'est les plus gentils. Même le prophète a dit ça, notre prophète à nous. Il a dit, je ne connais aucun chrétien aussi gentil que les mormons. Ah! Un beau témoignage. On ne peut pas dire ça de toutes les églises. Hein? Si vous manquez de sagesse, demandez-la. Regardez ce que ce petit gamin, quand il a demandé la sagesse à Dieu, ce que Dieu lui a donné. Il y en a qui disent, c'est le diable qui lui a donné ça. C'est une secte, les mormons. Ouais. Vous êtes les seuls à avoir la vérité, on connaît la chanson. Demandez à Dieu la sagesse. Il vous la donnera. C'est-à-dire, il vous prendra en charge, c'est-à-dire il sera en vous et vous marcherez tranquille, conduit, protégé, soigné, aimé par le bon berger qui vous donne alors, à ce moment-là, le vouloir et le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de ces quelques mots que j'ai dit à mes frères et sœurs que tu m'as inspiré, qui m'a fait... Ces mots m'ont fait beaucoup de bien quand je les ai reçus de ta part. Et je te prie que ça leur fasse aussi du bien, que s'ils n'ont pas tout compris, qu'ils cherchent encore en réécoutant sur notre site et qu'ils cherchent à comprendre quelle est ta volonté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir mormon. J'ai juste donné un exemple, tu le sais bien Seigneur. Mais ce que je voudrais, c'est qu'ils puissent recevoir de toi la sagesse. Merci Seigneur Dieu. Merci de bénir cela. Amen.